fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Sie sind live in der Sendung Fenster Afrika auf Kanal K. Heute berichten wir immer noch über den Politik von Balkus in auch in Togo. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Ich wünsche euch viel Spaß auf Kanal K. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à tous dans l'espace fenêtre sur l'Afrique sur Radio Kanal K en Suisse alémanique. Nous sommes de cœur et en esprit et soutenons, quelle que soit la distance qui nous sépare, nos frères de la Côte d'Ivoire et de la Libye, où des innocentes populations payent par le sang le prix de la liberté. À cet effet, nous aborderons avec nos invités, que nous nous ferons le devoir de vous présenter dans quelques instants, les sujets brûlants de l'actualité politique dans ces deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et la Libye et le Togo également. Disons trois pays alors. Au Togo, il y a un an, un jour, que le président Faure Gnassingbé venait d'être réélu. Un an également que le FRAC, Fonds républicain pour l'alternance et le changement, conteste sa réélection sans y parvenir à chasser Faure du pouvoir. Nous ferons ce soir dans Fenêtre sur l'Afrique le bilan d'un an de marche de contestation avec un membre du FRAC, en l'occurrence Maître Abitissa, président du PSRR, Pacte social pour le renouveau. Il sera en ligne en direct depuis Lomé. L'équipe de votre émission Fenêtre sur l'Afrique est toujours unie et harmonieuse pour vous informer. Supervision générale Gisela Rossato, programmation musicale Josué Maoli et Esteban Gagnon, parfaite collaboration de Romain Koudodji depuis Allemagne. Romain, bonsoir.
Bonsoir cher confrère Amos.
Fabi Kouassi depuis Lomé nous prête son soutien permanent. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique de ce soir au micro de Sylvain Amos. Chers amis auditeurs et amis du continent noir, encore une fois, bonsoir et merci d'être connectés sur le www.canalk.ch. Avant toute chose, je vous propose de suivre l'éditorial de Romain Koudodji de la nécessité du gouvernement togolais de rapatrier nos frères qui sont en danger de mort en Libye.
SOS pour les citoyens togolais en Libye. À 16 jours de la révolte du peuple frère, peuple ami de la Libye, la situation humanitaire devient catastrophique à Tripoli. Le danger imminent pour tous les étrangers, notamment africains, qui ne seront pas secourus par leurs gouvernements respectifs est en train de s'accentuer. En effet, le gouvernement libyen ne garantit plus la sécurité des étrangers dans son pays, tant elle est confrontée à un blocage catégorique du monarque libyen. Suite à la dernière déclaration du colonel Kadhafi du 25 février 2011, des armes ont été distribuées de manière catastrophique à la partie de la population de Tripoli qui le soutient. Ainsi, il n'est pas étonnant que les combats de rue conduisent à des balles perdues et sans compter la présence des mercenaires d'Europe de l'Est et aussi des pays de l'Afrique du Nord et subsaharienne et qui font office d'armées privées servant de paravent pour le groupe ethnique soutenant le guide libyen, sa famille et son clan. En réalité, il n'y a plus de sécurité à Tripoli, car les villes libérées comme Benghazi retrouvent un semblant de sécurité, poursuivent systématiquement tout ressortissant africain qu'ils simulent à des mercenaires pro-Kadhafi. Il y a donc maintenant près de 1000 Togolais et Togolaises qui se sont inscrits pour être rapatriés compte tenu de l'absence de sécurité. En effet, l'État libyen vient d'informer les étudiants togolais qu'il ne peut plus garantir leur sécurité. Face à cette volatilité et l'impossibilité pour le gouvernement libyen de garantir la sécurité des Togolais, l'État togolais doit décider une action d'urgence. Il faut savoir que la population libyenne en veut à pratiquement tous les Noirs, car parmi les mercenaires et les milices privées, il y a des Africains noirs. Par ailleurs, les organisations non gouvernementales et plus particulièrement le Comité international de la Croix-Rouge n'arrive pas à atteindre la population togolaise. Avec les armes distribuées à la population et la fermeture des commerces de détail, il n'est pas possible d'aller acheter de la nourriture. À ce titre, si le gouvernement togolais ne se presse pas pour envoyer des avions pour faire sortir les compatriotes togolais de ce guépier, il est fort possible que plusieurs parmi eux finiront par mourir de faim. Selon le CVU, Collectif pour la vérité des urnes, alors que le Togo tergiverse pour envoyer des avions pour aller sauver près de 1000 Togolais, la liste de 400 précédemment énoncée s'est allongée. Du fait de l'insécurité grandissante, il a été rapporté que des milices non identifiées ont pénétré la maison d'au moins 3 familles togolaises et commis des brutalités. La belle question qu'il faut se poser et qui doit interpeller et les citoyens et les gouvernants, et celle-ci. Que font exactement le président togolais, M. Fornia Singbe, et son premier ministre, Gilbert Fossou-Humbo? Pourquoi ne pas consacrer tous les efforts en vue d'aller sauver les 1000 Togolais vivant au quotidien au risque de leur vie? Il suffirait seulement un peu de volonté pour sauver des vies humaines. L'envoi d'un avion présidentiel peut sauver des âmes humaines des mains du sanguinaire Kadhafi. Avons-nous d'ailleurs un ministre des Affaires étrangères efficace, nommé Ohin Elliott, qui joue toujours aux abonnés absents en ce moment où la vie des compatriotes se compte au bout du doigt? Faut-il se rappeler que le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie, même le Sénégal, la Guinée et bien d'autres pays ont déjà apprêté des avions stationnés à Malte et certains sur le tarmac libyen pour rapatrier leurs ressortissants? Et nous, que font nos dirigeants? Joue-t-il de notre vie? Ce n'est pas une histoire de moyens. Il suffit d'une volonté politique du gouvernement Fornia Singbe pour sauver des citoyens togolais en danger de mort. C'est pourquoi nous lançons un SOS pour sauver nos compatriotes en danger dans les mains du bouffon sanguinaire de Kadhafi.
À tous les politiciens africains, les présidents mal élus. C'est trou, 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 trou. Africa politicien, ouais. Nous ne voulons plus les présidents commando. Wow. Ce sont eux les assassins de l'Afrique. Ce sont eux les ennemis des Africains. Attention, attention, attention. Ce sont les maîtres des coups d'État, ce sont les chefs des rebelles, ils sont toujours encore au pouvoir. Wow. Africains politiciens, ouais, nous ne voulons plus les chefs rebelles au pouvoir. Wow, in Africa, bon. Yo, Bagbe, Jojo. Wow, in Africa, Glee. Yo, Boto, La Sigadi. Africa, président, je dis venez dans la paix. La, 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 la. Africa, 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 président, Africa, je dis venez dans la paix. La, 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 la. Nelson Mandela. Soyez comme Toumani Touré, ne soyez pas comme le baobab de Ouassabanga. Venez comme Nelson Mandela, soyez comme J.J. Rollins, ne partez pas comme Robert Gueye. Hey, 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 entendez-vous. Libérez le Togo,
oh, libérez le Togo, yeah.
Entendez-vous. Libérez le Burkina,
Burkina, why, why, why.
Entendez-vous. Libérez le Gabon, Djamena.
Nous ne voulons plus les chefs d'État mal élus au pouvoir.
Eh bien, nous ne voulons plus des chefs d'État mal élus au pouvoir, chanté par le jeune artiste togolais Amen Dia Cissé. Nous avons réussi à joindre Laurent Depa depuis Abidjan et pour qu'il nous fasse la situation, et pour qu'il nous fasse évidemment le point sur la situation en Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire est très inquiétante et doit interpeller tout Africain. Une guerre civile se profile déjà à l'horizon, car depuis 2 semaines, dans certains quartiers, comme à Bobo, il y a eu des échanges de tirs entre forces de défense et de sécurité pro de Gbagbo et des miliciens ou encore des rebelles qui soutiennent Ouattara. Des femmes qui manifestaient jeudi dernier en faveur d'Alassane Ouattara ont été dispersées et 7 d'entre elles ont trouvé la mort. Au demeurant, le chef de l'État sud-africain, membre du panel des 5 chefs d'État mandatés par l'Union africaine pour trouver une solution à la crise ivoirienne, semble défendre jusqu'au bout l'idée d'un partage de pouvoir ou une reprise des élections en Côte d'Ivoire. Jacob Zuma aurait réaffirmé sur la chaîne de télévision américaine CNN sa position de ne pas voir Gbagbo quitter le pouvoir au profit d'Alassane Ouattara. Rappelons également que l'évaluation de la mission du panel des chefs d'État africains sur la crise ivoirienne est attendue pour ce mois de mars. Nous allons prendre tout de suite Laurent Depa qui est déjà en ligne. Laurent Depa, bonsoir.
Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci encore une fois d'être en direct depuis Abidjan dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Laurent Depa, vous êtes directeur de Mediakwasi.com, un site d'information panafricaine. Vous résidez actuellement à Abidjan. Quelle est la tension actuellement en Côte d'Ivoire? Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait cette semaine 7 morts, Laurent.
Oui, en fait, ici en Côte d'Ivoire, on ne sait plus juste ce qui se passe. D'un coup, ça s'embrase dans des endroits des fois que l'on ne considérerait pas ou qu'on ignorerait. La situation est totalement confuse. On évoque des miliciens, on évoque des commandos invisibles, on évoque de l'armée qui tire sur la foule. Enfin, il y a véritablement un abandon de la classe politique en général qui laisse les gens armés hein, faire la loi et aussi les civils maintenant qui s'y mettent avec ces barrages patriotes qui sont disposés un peu partout dans les communes d'Abidjan, qui nous arrêtent systématiquement pour frayer des voitures. Au niveau international, on ne comprend plus rien. Le panel est complètement embêté avec cette question ivoirienne. Je dirais que ce soir, un peu, la Côte d'Ivoire, c'est qui veut sauver la Côte d'Ivoire, parce que j'ai bien l'impression que personne n'a de solution. Quand on nous a informé que le panel devait venir hier, des chefs d'État, c'est le fameux chef d'État que vous faisiez allusion tout à l'heure, aujourd'hui, on nous avait annoncé plutôt Jean Ping ou Béo de la CDAO, il n'y en a rien eu, personne ne vient. Le panel, selon mes informations que j'ai recueillies auprès d'un des conseillers, d'un Doul Belaziz, c'est qu'il n'y a aucun consensus de trouver. Jacob Zuma était à Paris à rencontrer Sarkozy. De ce que l'on sait, c'est qu'apparemment sa position aussi, selon des intérêts, selon aussi le principe de développement de l'Afrique du Sud, pourrait changer, en l'occurrence peut-être à l'encontre de Laurent Gbagbo, car aujourd'hui la communauté internationale soutient toujours Alassane Ouattara. Le cas de constater de fraude électorale est toujours maintenu, donc plus de 2 mois après l'élection, on a une situation confuse. Laurent Gbagbo lui-même ne n'interpelle plus, ne parle plus, on ne sait même pas il est encore en Côte d'Ivoire, selon nos informations, mais quasiment absent, un pouvoir absent, je répète, et hélas, les armes parlent, et ça, c'est bien dommage, et ça va à l'encontre d'un pays qui n'a plus envie de vivre cette crise.
Oui, Laurent, restez toujours en ligne avec nous. Nous avons un confrère collaborateur de cette émission, de l'autre côté de Beaune, qui a certainement quelques questions pour vous. Et Romain?
Oui, bonsoir, confrère Laurent.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui, sur votre site, on peut lire que plusieurs FDS, forces de défense et de sécurité proches de Laurent Gbagbo, rallient le camp Ouattara. Avez-vous des éléments de preuve suffisantes Et si tel est le cas, pourquoi ne déloge-t-il pas Gbagbo et son gouvernement pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire?
Alors tout ça, ce sont des vérités connues, hein, mon cher. Je tiens à saluer la question. Des vérités connues parce que le capitaine Alain, notamment, fait constamment des communiqués pour faire mention de ces ralliements. Il est bien évident que l'armée est divisée, hein, l'armée en Côte d'Ivoire. Et effectivement, la garde républicaine, qui est une branche de l'armée, est encore fidèle à Laurent Gbagbo. Mais notamment avec cet épisode, donc, de ce que vous faites allusion à Bobo, donc ce jeudi, de femmes qui ont été tués donc par des éléments de l'armée. Effectivement, beaucoup de soldats dans les rangs ne veulent pas être mêlés à ça, associés à ça, pour peut-être, si la situation changeait. Autre chose aussi, depuis l'annonce de l'envoi de troupes de légions étrangères françaises en Côte d'Ivoire depuis mercredi dernier, présente à Abidjan, on dit qu'il y a à peu près 170 légionnaires, hein, on sait ce que c'est que la légion, et quand on envoie la légion, beaucoup de soldats ivoiriens, ça fait trembler beaucoup de soldats de l'armée. Et en l'occurrence, beaucoup ne veulent pas aussi peut-être par peur se voir sanctionner demain de n'avoir pas rejoint un camp qui, effectivement, prend de plus en plus l'ascendant dans cette bataille politique.
Oui, Laurent Depas, une dernière question. Par ailleurs, plusieurs observateurs pensent que l'objectivité n'est plus de mise avec vous, et puisque vous semblez suivre le meilleur qui gagne. Hier, c'était Gbagbo et aujourd'hui, Ouattara. Que répondez-vous, Laurent Depas?
Alors, ce que vous faites est un jugement de valeur. Moi, je n'ai pas d'objection. C'est une objection à ça, ne serait pas, je dirais, objective. Moi, ce que je regarde, c'est que j'ai toujours maintenu les institutions pour pouvoir aussi, pour le prochain président qui viendra, s'il y avait changement, il faudra quand même dire qu'il y a un, je dirais, il faut respecter les institutions d'un pays. Aujourd'hui, nous avons une situation politique qui évolue constamment. Qui n'a jamais pris comme moi-même de parti. Moi, je n'ai rien contre ou pour Laurent Gbagbo et contre ou pour Alassane Ouattara. Nous sommes spectateurs et victimes. Je rappelle que nous tous qui vivons ici sommes privés d'argent depuis plus de presque 3 semaines maintenant. Nous vivons des conditions très difficiles. Donc, l'apogée de la politique ou des politiciens, au respect de l'institution, au respect des Ivoiriens, du vote des Ivoiriens et du jeu politique qui se joue. Hélas, nous, on est un peu loin de tout ça. On n'est que spectateurs. Effectivement, il évolue et nous évoluons tous. L'opposition évolue, en tout cas, on fait notre mieux pour, depuis ce pays que nous aimons tous, informer au mieux en fonction de l'évolution du dossier.
Laurent Depas, merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Abidjan. Je rappelle tout de même que vous êtes directeur de MediaKwasi.com.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Avant d'aborder le sujet sur l'actualité politique au Togo, nous allons tout de suite prendre notre correspondante Fabi Kwasi en ligne depuis Lomé. Elle va nous faire certainement le briefing sur l'actualité politique au Togo. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain, bonsoir
les
auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes en direct, bien sûr, depuis Lomé et vous suivez pour nous les manifestations du FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement au Togo. Fabi Kwasi, est-ce que le peuple togolais est toujours déterminé pour les manifestations? Vous savez, il y a un an que Front Nyasingwe venait d'être réélu. Un an également, son pouvoir est toujours contesté par le FRAC. Quel bilan global peut-on établir de la politique togolaise, Fabi Kwasi?
Oui, Sylvain, vous l'aviez dit, une première dans les annales de la contestation électorale au Togo. Le Front républicain pour l'alternance et le changement est toujours dans la rue pour contester la réélection de Faure Gnassingbé. Depuis la présidentielle du 4 mars, le FRAC a connu des hauts et des bas. Au départ, la contestation, personne ne croyait que les Togolais allaient sortir et pourtant le FRAC a réussi à mettre de 10 000 à 100 000 jusqu'à atteindre 500 000 et plus dans la rue de Lomé. De quoi faire flipper le pouvoir togolais qui n'a trouvé d'autres moyens que la répression systématique des manifestations du FRAC, que sont les marches hebdomadaires et les veillées de prière. Au total, 3 mois de répression avec son lot de blessés. On se rappelle du reporter photo Tony Sogui, blessé à plusieurs reprises par grenade et par balle en caoutchouc. De Patrick Diondo de l'ANC, blessé par balle à bille. Le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, le secrétaire général de l'ADI, agressé par le capitaine Kondo de la gendarmerie nationale. Beaucoup d'arrestations aussi, c'est le cas de M. Folico, sans oublier les responsables responsables du MCA et bien d'autres victimes. N'oublions pas que c'est dans le chapitre des répressions que le colonel français Romuald Le Tondeau s'est illustré négativement en promettant de faire descendre la garde présidentielle pour réprimer les Togolais. Les manifestations ont repris depuis peu et retour à la case départ où les marches recommencent à atteindre petitement leur vitesse de croisière. C'est dire qu'un an après, le FRAC doit faire le bilan en son sein, lancer la perspective pour remobiliser les populations. Surtout qu'un an après, c'est toujours impossible pour le FRAC d'aller à l'intérieur du pays et le Front a la responsabilité aujourd'hui de trouver le moyen d'aller vers les populations du Togo profond. Un an après, Sylvain, nous sommes samedi, les Togolais étaient encore de milliers dans les rues de Lomé sous un soleil de plomb. La tension commence par monter dans le ton. Pas question d'un dialogue qui ne prend pas en compte l'intérêt général. L'opposition est désormais mature et ne tombera plus dans les pièges d'un pouvoir quarantenaire à court de stratégie, a martelé le président du PSR, Maître Abitissa, avant de conclure que ceux qui veulent dialoguer avec le pouvoir peuvent le faire. Claude Amégambi du Parti des Travailleurs reste fidèle à sa philosophie. Le changement dépend du peuple. C'est aux Togolais de prendre la décision de se libérer du joug du RPT avant de lancer l'idée des manifestations en semaine et de façon soutenue jusqu'à la chute du régime. Claude Amégambi n'a pas manqué de dénoncer le complot de la communauté internationale contre le Togo. Et donc, pour le Parti des Travailleurs, c'est clair, la solution n'est pas le dialogue, mais la rue, avec comme épine dorsale le peuple togolais. Fornia Singé démission, Fornia Singé dégage, est le slogan de l'homme en blanc, slogan que la foule ne cesse de répéter en chœur. À Jean-Pierre Fabre de conclure qu'au-delà des préalables, personne ne mènera plus l'opposition en bateau à travers un dialogue dont les issues sont pipées. Pour rappel, les motos saisies lors des mouvements de protestation ont été retournées à leurs auteurs. Après la marche, le meeting tape sur Zangera, où l'ANC est en meeting d'information ce soir.
Merci Fabi pour ces développements sur l'actualité politique au Togo. Fabi Kwasi, Fornia Singé vient de limoger le ministre du Commerce, Koku Gozan. Il semblerait que les raisons officielles n'ont pas convaincu du tout l'opinion publique, Fabi.
Oui, la nouvelle a fait la une des canards. L'influent Koku Gozan, ancien directeur de la BCAO, a été débarqué du gouvernement comme un vulgaire bandit. La cause de ce limogeage reste toujours floue pour les Togolais, car le décret présidentiel n'est pas clair à cet effet. Au sein des intrigues, l'attribution des marchés d'importation de certains produits de première nécessité, que sont le riz, l'huile ou encore le sucre, à une proche de Fornia Singé, qui a toujours eu le monopole d'ailleurs, et une autre personne sans doute pour brouiller les pistes. Selon les indiscrétions, Fornia Singé n'aurait pas apprécié cette grande complicité entre les désormais personnes qui ont le monopole de ces produits. Et M. Gozan, est-ce que cela suffit à faire débarquer quelqu'un d'un gouvernement, surtout que certains barons font pire et personne ne leur dit rien? Même si les Togolais se sont réjouis de ce départ de M. Gozan, ils sont convaincus que les raisons sont ailleurs et que le pouvoir, comme à son habitude, s'il n'a plus besoin de toi, il te jette comme une serpillière. Le désormais ex-ministre du Commerce l'a appris à ses dépens. Il faisait donc partie de la délégation du Premier ministre en tournée dans l'Europe pour rencontrer des hommes d'affaires et les institutions pour leur dire justement que le Togo est un pays où tout marche comme sur des roulettes. Et donc si les Européens sont intelligents avec cette attaque posée par Fornia Singé, ils devraient savoir que le Togo est plutôt un pays à problème. Comparaison n'est pas raison, Sylvain, mais le cas Alio Marie est encore là. On lui a laissé quand même le temps de revenir du Koweït. Elle a eu le temps de présenter sa démission à M. Sarkozy, même si l'opinion française savait qu'elle va être débarquée et qu'elle-même le savait. L'Élysée ne l'a pas eu comme Fort l'a fait avec Gozan, tel pour se débarrasser d'un rival. Et comme le disait un auditeur sur une radio privée de la place, c'est tout le gouvernement de Fornia Singé qui doit être limogé. Ainsi va le Togo et c'est ainsi que Fornia Singé gère le pays.
Fabi Kwasi, merci.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Il y a un an, un jour, le président de la République du Togo se faisait réélire dans des conditions problématiques. Élection naturellement contestée en 2005 par des citoyens togolais. Ensemble avec vous, ouvrons une fenêtre sur ce petit rectangle pour scruter ensemble la réelle politique de ce pays. En vérité, parlons plutôt des faits au lieu de bilan. Il est à noter que la réconciliation tant prônée par le président Fornia et son vice Fornia Singé n'a pas eu lieu. Pire encore, dans sa propre famille, son franguin qui l'a aidé à venir au pouvoir en 2005 croupit encore sous les verrous avec d'autres fils de leur père. point, il est besoin de rappeler que Kwacha Nyansimbe, en collaboration avec certains citoyens, y compris les pop frères du chef de l'État, ont été arrêtés et détenus dans un lieu secret depuis le 20 avril 2009 sans jugement. Un an après la réélection de Faure, économiquement, le citoyen tire au diable la queue dans ce pays où, en moins de 2 ans, le prix du carburant a été revu à la hausse plusieurs fois. L'insécurité est revenue au galop. Personne n'est épargné. Même Mme l'ambassadrice des États-Unis au Togo en sait quelque chose. L'accord politique global bat du plomb dans l'aile et fait place à un dialogue inclusif qui tente à diviser de nouveau l'opposition togolaise. Le gaspillage des deniers publics et des souvenirs sombres et douloureux ne permettent pas une réconciliation, certes, malgré la fameuse commission Vérité, Justice et Réconciliation mise en place pour berner les esprits crédules. Comment peut-on parler de réconciliation en fêtant encore et toujours le 13 janvier 1963, le 24 février, le 23 septembre, j'en passe, et autres jours peu glorieux dans la longue marche de la liberté du peuple togolais. Somme toute considération gradée, la seule réussite à mettre sous l'actif du président Faure, c'est d'avoir réussi à phagocyter son opposition en proposant des monts et des merveilles à celui qui, hier, représentait le tenant de l'opposition, j'ai nommé Gilles-Christ Olympio, qui aujourd'hui rase le mur et est devenu en politique ce que l'on peut appeler un cadavre ambulant. Par ailleurs, on peut ne pas porter son opposition dans son cœur, ce qui est tout à fait normal. Mais le respect des droits et libertés et institutions de son pays oblige les gouvernants à respecter certains préalables, notamment la sécurité du citoyen, le droit aux partis politiques de manifester et de se faire représenter à l'Assemblée nationale pour jouer le rôle de contre-pouvoir. Mais attention, si vous me posez la question de savoir si ce minimum est garanti au Togo, je ne vous répondrai pas par l'affirmatif. Ainsi va la République togolaise sous la houlette de Faure Gnassingbé.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, débat, analyse sur l'actualité politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Eh bien, je l'avais annoncé tantôt en début de cette émission que nous allons recevoir Maître Abi Tessa et pour le bilan d'un an de contestation du FRAC, puisque Maître Abi Tessa est membre du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement. Nous allons tenter de le recevoir en direct depuis Lomé. J'espère qu'il est déjà en ligne. Maître Abitissa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes le président du PSR Pacte Social pour le Renouveau. Vous êtes également membre du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement. Maître Abitissa, il y a un an, le président Fonia Singe renouvelait son mandat présidentiel, lequel vous contestez toujours. Et quel bilan dégagez-vous d'un an de contestation, Maître Abitissa?
En un an, nous avons prouvé aux yeux du monde que le peuple togolais est un peuple mature, qu'il est capable de prendre en main son destin. Les processus électoraux au Togo ont été toujours émaillés de fraudes et de violences. En 2010, le président Faure a été proclamé vainqueur à l'issue d'une élection qui n'a pas répondu à nos yeux aux critères d'une élection démocratique, et le peuple togolais que nous avons sollicité a pris en main son destin. Donc en un an, nous avons prouvé que ce peuple ne peut plus impunément laisser le régime commettre des hold-ups électoraux, et je pense que nous continuons cette mobilisation pour que notre pays sorte de cette crise qui consiste à procéder au hold-up électoral et après à organiser des dialogues, des discussions avec l'opposition. Cette fois-ci, nous sommes conscients qu'il revient à ce peuple de prendre en main son destin. C'est ce qu'il essaie de faire.
Et quelle a été l'affluence ce samedi et lors de la manifestation hebdomadaire du FRAC, puisque vous-même vous êtes membre du FRAC? Et comment est-ce que vous comptez continuer votre lutte?
Mais ce samedi, le public était au rendez-vous, la plage était bourrée de monde. Nous avons un public très engagé, nous avons des hommes et des femmes qui demandent et qui sont assez sensibilisés pour cette action de masse qu'est la manifestation. Vous savez, nous sommes contraints de rester dans la légalité constitutionnelle, d'exprimer notre rejet du système dans le cadre de la Constitution qui nous donne le droit de manifester. Nous le faisons d'une manière pacifique, et je pense que nous continuerons de le faire, et nous devons aboutir à l'issue de ces manifestations, nous devons aboutir à une transition politique pacifique. Je pense que nous ne pouvons plus nous résigner à accepter que la Cour constitutionnelle, à la suite de la CENI, ont proclamé les résultats et que l'opposition togolaise doit s'y plier. Nous avons toutes les preuves, nous les avions eues, qui justifient nos actions, notre revendication. Ces preuves ont été confisquées par le régime, et aujourd'hui, aux yeux du monde, nous prouvons que le peuple togolais est mature et que c'est lui qui décide de son destin. Alors donc, comme aujourd'hui, comme par le passé et comme pour l'avenir, ce peuple restera mobilisé, et nous allons, d'une manière ou d'une autre, pacifiquement organiser l'alternance politique au Togo.
Maître Abitissa, restez toujours en ligne avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Romain, de l'autre côté de l'Allemagne, depuis Bonn, a également quelques questions à vous soumettre. Romain, rebonsoir.
Oui, Maître Abitissa, bonsoir.
Oui.
L'actualité, c'est le dialogue inclusif que le président de la République, M. Faure Gnassingbé, propose à la classe politique togolaise. Et cela s'est manifesté par une invitation à l'ANC qui a été rejetée. Votre allié, naturellement. Comment interprétez-vous cette volonté de Faure d'ouvrir de nouveau un dialogue avec l'opposition?
D'abord, je dois vous préciser que la position de l'ANC est la position du FRAC. Nous avons rencontré le FRAC, je parle bien des partis membres du FRAC, PSR, ADI, Sursaut Togo et l'ANC. Nous avons rencontré les ambassadeurs de l'Union européenne et nous avons fait le point avec eux sur cette question relative au dialogue inclusif. Nous avons dit au régime, par l'intermédiaire de l'Union européenne, qu'il y a un certain nombre de points préalables à régler. nous les avons exprimés et ces points ont été repris dans la lettre que, dans la réponse que l'ANC a faite au ministre de l'administration territoriale pour le compte du président de la République. Donc, relativement à ce dialogue, nous sommes conscients que les dialogues au Togo n'ont jamais donné n'ont jamais sortir le pays de la crise. Nous sommes conscients aussi que dans un système politique, lorsqu'il y a des problèmes, il faut les régler par le dialogue. Mais nous voulons cette fois-ci qu'il soit bien noté que nous n'allons pas à un dialogue comme par le passé où nous allons accompagner le RPT pour entériner ce que le RPT va décider pour l'avenir et pour son pouvoir. Nous voulons un dialogue. Oui, si c'est un dialogue qui met en jeu l'avenir de notre pays d'une manière sincère, nous sommes partie prenante. Si c'est un dialogue qui nous permet d'organiser l'avenir en toute sérénité, oui, nous sommes partie prenante. Si c'est un dialogue qui permet au Togo de connaître le changement d'une manière pacifique, oui, nous sommes partie prenante. Mais avant même qu'on ne discute avec le système RPT en place, il faut qu'un certain nombre de points soient réglés et ces points figurent dans la lettre, dans la réponse faite par l'ANC. Je vous donne un petit exemple. Nous avons demandé au régime de restituer les motos qui ont été saisies au niveau de Tchaoudo, Sokodé. Ce qui a été fait, je pense. Mais ils n'avaient pas besoin qu'on le leur formule, qu'on formule cette demande. Nous avons demandé au régime de réintégrer les députés de l'ANC qui ont été injustement écartés de l'Assemblée nationale pour des raisons politiciennes. Alors, nous avons demandé au régime d'arrêter de violer les droits de l'homme. L'ANC a fait des tournées dans les quartiers de Lomé. Le régime a sorti sa milice pour empêcher l'ANC d'exercer. Il faudrait que c'est préalable. Nous ne pouvons pas nous mettre à table avec un système qui méconnaît les principes élémentaires reconnus dans la Constitution aux partis politiques et aux citoyens togolais. Il est hors de question. Ensuite, sur le menu de ce dialogue, vous pouvez compter sur nous. Nous n'allons plus pour discuter de ce que doivent être les pouvoirs dans l'État. Je pense que le régime RPT a modifié la Constitution en 2002, le 31 décembre 2002, alors que le peuple togolais s'était doté cette Constitution d'une manière cavalière, d'une manière antidémocratique, et il faut qu'en tout état de cause, les responsabilités soient situées. Le coup d'état électoral constitutionnel qui a été fait en 2005, nous demandons sur toutes ces questions, sur tous ces enjeux, qu'il y ait quand même des responsabilités, qu'on les situe bien, afin d'offrir à chacun de nous l'assurance que nous pouvons cette fois-ci rompre avec les méthodes du passé pour engager le Togo sincèrement dans un avenir beaucoup plus serein, apaisé et prospère. Nous sommes là pour cela. C'est du Togo qu'il s'agit. Ce n'est pas de X ou Y. L'essentiel, vous savez, c'est que s'il y a quelque chose de positif, nous sommes tous responsables. Nous œuvrerons à ce que notre pays avance.
Oui, Maître Abby Tiessar, merci beaucoup pour vos explications et qui nous a beaucoup émerveillés. Il se susurre également dans certains milieux politiques que bientôt certains leaders du FRAC, Front Républicain pour la Tendance et le Changement, ou partie du FRAC feront bientôt partie de notre gouvernement d'union et qui se profile à l'horizon et suite à un prochain remaniement ministériel. Confirmez-vous cette information, Maître Abby Tiessar?
Non, pourrais-je vous dire que aujourd'hui au sein du FRAC, nous avons peut-être cette... Contrairement au passé, nous avons un groupe homogène, une convergence de vues sur l'ensemble des grandes questions nationales. Nous sommes très engagés à préparer ensemble l'avenir. Nous sommes très engagés à préparer les prochaines élections ensemble. Nous sommes très engagés à lutter pour que le pouvoir revienne au peuple togolais, qu'il l'exerce sans, je dirais, sans aucune entrave possible. Et c'est de cela qu'il s'agit. Je pense que c'est le prérequis au développement de notre pays et à son intégration dans l'économie mondiale. Nous sommes engagés sur ces questions fondamentales avec une même position, un même point de vue, une même démarche, et il ne sera pas question de diviser le FRAC. Ce qui essaie de jaser sur telle ou telle chose, je peux vous rassurer que tout cela ne relève que des fantasmes politiques. Pour l'essentiel, soyez rassurés que les positions qui ont été exprimées par les uns et les autres sont celles que nous avons arrêtées ensemble au sein du FRAC. Et sur les grandes questions, nous nous consultons, nous nous concertons. Si demain, les autres partis membres du FRAC reçoivent l'invitation de Faure Gnassingbé à discuter, c'est exactement la même réponse qui sera faite au gouvernement.
Romain, vous avez une dernière question?
Évidemment, maître Abi Tshessa, après un an de contestation du régime de M. Faure Gnassingbé, et il se fait que le président est toujours là, il est toujours au pouvoir, et d'aucuns pensent que au Togo, le gouvernement gouverne et l'opposition dirige la rue. Et finalement, est-ce qu'il y a d'autres perspectives en dehors de la rue?
Mais vous savez, je pense que je ne vous apprends rien. Dans les années 90, au début des années 90, à la faveur du vent de l'Est, du sommet de la Baule et des conférences nationales, il s'est mis en Afrique en place des démocraties institutionnelles caractérisées par des constitutions qui reconnaissent le multipartisme, l'adoption des codes électoraux, l'adoption des chartes des partis politiques, la mise en place des conseils constitutionnels et de tous les mécanismes électoraux pour conduire les pays, les sociétés africaines vers plus de démocratie. Vous savez, aujourd'hui, après 20 ans, puisque c'est au début des années 90, 20 ans après, nous pouvons faire un bilan qui a connu des fortunes diverses. Le Bénin et le Ghana se sont engagés dans la démocratie, mais notre pays, le Togo, est resté en dehors des processus démocratiques. Et aujourd'hui, c'est une deuxième phase de démocratisation qui s'ouvre à la faveur du vent venu des pays arabes et des pays du Maghreb. C'est la démocratie menée par les peuples qui ont conscience qu'il leur revient de prendre en main leur destin. Nous sommes dans cette situation au Togo. C'est le peuple togolais désormais qui prend en main son destin. À lui de refuser les fraudes électorales. À lui de refuser les décisions arrangées par la Cour constitutionnelle. À lui de refuser la gouvernance qui tend toujours à revenir à la même chose. Donc, nous sommes conscients, nous sommes portés par le peuple. Je pense que vous devez nous faire confiance parce que c'est une vie nouvelle. C'est une nouvelle étape de notre vie collective. Nous sommes en train de l'organiser et de lui donner véritablement tous les ressorts qu'il lui faut pour mener à un changement véritable. On ne peut rien faire dans ce pays contre le système RPT si le peuple togolais n'est pas mobilisé. Je pense qu'après un an de mobilisation, le peuple démontre qu'il est toujours prêt et qu'il est prêt au sacrifice utile pour que notre pays, enfin, prenne le chemin
du
développement de la démocratie.
Merci.
Voilà tout simplement ce qui se met en place au Togo. Et les gens sont impatients, c'est vrai, mais vous savez, les changements parfois sont un peu longs à arriver, mais ils arrivent.
Maître Abi Tshessa, une dernière question, puisque le temps est contre nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Écoutez, Maître Abi Tshessa, la révolution en Libye met la vie de 1000 compatriotes togolais en danger, parce que confondus aux mercenaires tchadiens de Kadhafi, certains pays africains commencent par rapatrier leurs ressortissants, mais le gouvernement togolais se confond dans un silence cynique. Pourquoi ne dénoncez-vous pas tout haut ce comportement, Maître Abi Tshessa?
Mais je l'ai dit aujourd'hui dans l'intervention que j'ai faite sur la plage devant le public qui manifestait que nous devons avoir une pensée particulière pour le peuple frère de Côte d'Ivoire. D'abord, vous savez que nous avons beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire. Je dis aussi que nous devions avoir une pensée particulière au peuple libyen qui est en train de se battre pour le changement. Et je vois que dans ce monde, finalement, lorsqu'on est issu d'un pays où la vie humaine n'est pas prise en compte par les dirigeants, et bien sûr, ça vous suit partout où vous êtes. Il appartient au gouvernement togolais de réagir, mais il appartenait à nos pays ensemble, aux pays ouest-africains, d'organiser le rapatriement de nos compatriotes qui sont en Libye, qui contribuait à la prospérité de l'économie togolaise, parce que c'est la diaspora aujourd'hui qui soutient notre économie nationale. Alors, je constate que le gouvernement, qui n'arrive pas à régler les problèmes internes, n'est même pas capable de lever le doigt pour les problèmes extérieurs. Mais vous n'êtes pas sans savoir que M. Kadhafi tient en main nos présidents, et que cela est l'une aussi des raisons pour lesquelles il ne se presse pas à aller au chevet de nos compatriotes. Je le regrette fortement et je pense que nous devons en tenir compte pour nos actions futures.
Maître Abitissa, merci d'avoir été en direct depuis Lomé dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle tout de même que vous êtes le président du PSR, Pacte Social pour le Renouveau. Encore une fois, merci Maître Abitissa.
Merci bien.
La révolution libyenne perdure et crée de sérieux problèmes dans l'Afrique subsaharienne. Le CVU Diaspora, collectif pour la vérité des unes, est inquiet de la situation et également de la situation inquiétante dans laquelle se trouvent les ressortissants togolais en Libye. Nous allons prendre tout de suite monsieur ou encore Dr Yves Ekwe Amaizo, qui est le coordinateur général du CVU et Diaspora. J'espère qu'il est déjà en ligne depuis Vienne. Bonsoir Dr Yves Ekwe Amaizo.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Vienne. Je le disais tantôt, vous êtes directeur du groupe de réflexion et d'action Afrologie et aussi coordinateur provisoire du collectif pour la vérité des unes, groupe indépendant de la diaspora. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La crise financière mondiale, réponses alternatives de l'Afrique, édition Minabuc, Paris 2010. Et pour continuer également votre présentation, vous avez dirigé plusieurs livres, dont celui qui s'appelait bien au Togo, La neutralité coupable, l'autocensure des Africains, un frein aux alternatives, avec une préface d'Abel Goumba et une postface de Tetevi Godwin Tete Adjalogo, édition Minabuc Paris 2008 également. Alors, Dr Yves Kwe Amaizo, l'actualité, c'est aussi la révolution en Libye. On assiste depuis cette révolution libyenne à des tueries et du côté des manifestants que des pros de Kadhafi. Pensez-vous que le guide libyen appartient désormais au passé ou va-t-il résister contre la volonté du peuple?
Écoutez, c'est une très bonne question. Tout d'abord, je crois qu'il est important de faire un peu d'histoire. Il faut rappeler quand même que cette révolution de on peut même pas l'appeler monsieur aujourd'hui, le colonel Kadhafi, date de quelques années maintenant, 30 et quelques années. Et le problème fondamental dans cette histoire, c'est qu'elle est fondée sur une volonté directe de protéger le pétrole qu'il s'est accaparé. Et à partir de là, toute atteinte à cela ou attaque à cela, qu'il vienne de l'extérieur ou qu'il vienne de l'intérieur, est généralement très 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 difficile à modifier. Alors, la réponse à votre question, c'est qu'il va y avoir une résistance farouche du clan du colonel Kadhafi, essentiellement basé à Tripoli, par rapport au clan adverse qui est essentiellement du côté de Benghazi. Mais la réalité, c'est que les pays occidentaux, la communauté internationale en général, n'a pas soutenu les oppositions pacifiques de Benghazi qui existent depuis très très longtemps. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, on parle toujours de grande république, mais attention, le fonctionnement de la Libye est la suivante, très rapidement, c'est qu'il y a aussi en dehors de la structure centrale, il y a des comités qui sont là, populaires, et qui fonctionnent quand même sur une base de démocratie locale. Bien sûr, le commandement central est autocrate, elle est centralisée, elle est dictatoriale. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a en gros, pour aller vite encore, 16 grands groupes qui sont dans les différentes parties de la Libye. Donc pour gagner réellement un changement ou une alternance dans ce pays, il faut que chacun de ces grands groupes, les 16 donc, chacun décide de manière démocratique qui va être le responsable et que ces responsables maintenant choisissent ou pas de conserver le colonel Kadhafi comme étant le commandement supérieur, le guide. Maintenant, ce qui se passe, puisqu'on peut acheter, on peut payer, on peut fournir des armes à tel ou tel de ces différentes structures, vous comprenez que ça va être relativement difficile pour pouvoir faire ce changement. Par ailleurs, je vous rappelle que les mêmes Occidentaux qui crient partout des sanctions, etc., on a des preuves de plus en plus que beaucoup d'entre eux vendent des munitions, des armes, bien sûr, à la partie que vous dites aujourd'hui révolutionnaires ou opposés ou qui cherchent l'alliance ou cherchent l'autodétermination, mais eux vendent aussi au colonel Kadhafi aussi. Donc la réalité, c'est que dans les deux camps, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent à vendre des armes et qui ont tendance à vouloir que ça dure le plus longtemps possible, d'ailleurs comme en Côte d'Ivoire. Donc les vendeurs d'armes sont très très contents actuellement. Donc la réponse à votre question, c'est que ça risque d'être relativement long et qu'on va donner un peu dans un camp, un peu dans l'autre, pour faire traîner tout ceci le plus longtemps. L'objectif étant bien sûr, comme toujours, d'arriver en fait à couper le pays en deux pour pouvoir accéder au pétrole d'une manière ou d'une autre.
Docteur Yves Kouyamaïzo, restez toujours en ligne avec nous, Romain.
Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Romain.
Dans votre récent communiqué, vous dénoncez la nonchalance du régime du Togo qui ne fait aucun effort pour le rapatriement des ressortissants en Libye. Êtes-vous en contact avec des compatriotes et combien sont-ils exactement à l'heure où nous parlons?
Vous avez entièrement raison de poser cette question. Le gouvernement togolais refuse, j'insiste sur le mot refuse, de compter la diaspora jusqu'à aujourd'hui. On n'est ni dans le recensement, on n'est compté nulle part. On est entre 1,5 million et 2 millions 2, mais il faut encore nous compter et nous dénombrer pour savoir combien on est. En Libye, bien sûr, nous avons des contacts en Libye. Je vous rappelle que je suis consultant international et que j'ai eu une mission là-bas il n'y a même pas un mois. Donc j'étais dans le pays, j'ai vu nos compatriotes, on a même mangé les plats togolais avec toutes les parties de la couche togolaise du nord au sud. Et les gens étaient certains heureux, certains moins heureux. Quelle est la réalité du problème? C'est que certains y sont pour des fonctions normales de travail, d'autres y sont envoyés en tant qu'étudiants, mais il faut les voir dans le détail, certains sont aussi des militaires. C'est que ça pose même des problèmes de savoir si ces militaires ne sont pas, pour certains, les meilleurs sélectionnés pour devenir peut-être des mercenaires. Donc il faut poser la question plutôt au gouvernement, est-ce que le gouvernement a un accord secret pour avoir des mercenaires en Libye, Togolais, et puisqu'on a vu des Tchadiens, on a vu des Camerounais, on a même des morts Camerounais actuellement officiels. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le pays et qu'il y a ces accords secrets, on vous retire votre passeport. Vous n'avez pas de passeport. Vous avez un titre qui vous permet de circuler dans le pays, qui ne vous donne souvent pas droit de travailler ou dans une activité spécifique. Si vous voulez quitter le pays, vous devez faire une autorisation qu'on ne vous donne d'ailleurs pas. Ça, c'est deux. Trois, c'est le pays d'accueil, donc la Libye, qui vous assure votre sécurité. Et compte tenu des difficultés aujourd'hui dans le pays, cette sécurité n'est plus assurée. Voilà pourquoi vous avez eu une gradation du nombre de Togolais qui, petit à petit, se sont inscrits sur une liste, qui est coordonnée d'ailleurs localement, pour pouvoir rentrer. Ils ont fait une demande officielle à la présidence de la République, qui, jusqu'à ce que je vous parle maintenant, n'a pas reçu de réponse. Je vous rappelle, la réalité, vous ne pouvez pas sortir dans les rues. Il y a des tirs de partout, il y a des snipers. Aujourd'hui, ça fait très très mal, puisque Tripoli ne veut absolument pas que tout autour de Tripoli, il y ait une quelconque possibilité des forces extérieures de rentrer. Et donc, on fonctionne là-bas pour manger avec le gaz butane en bouteille. Si vous n'avez pas de gaz butane qui dure 7 jours à peu près 2 semaines au grand maximum, vous ne pouvez même pas cuisiner. Donc les gens, en fait, vont mourir tout simplement de faim dans leur propre maison. Et c'est déjà arrivé à un certain nombre de Togolais.
Oui, docteur Yves Kouyamaïzo, trouvez-vous une raison concrète de la négligence du gouvernement togolais de rapatrier et nos ressortissants en danger, vu que certains pays africains ont commencé déjà par évacuer leurs citoyens?
Je constate d'abord qu'il n'y a aucune unité africaine sur ce dossier. Je constate qu'il n'y a aucune unité de la CDAO sur ce dossier. Je constate que le président de l'UMOA, qui est justement le président togolais, il n'y a aucune unité qui l'a organisée. La moindre des choses, c'est demander aux présidents qui sont membres de l'UMOA de se mettre ensemble pour envoyer un avion commun pour aller chercher leurs ressortissants. Ça n'a même pas été fait. Donc le vrai problème, c'est qu'il n'y a même pas d'initiative. Quelqu'un qui ne veut pas d'initiative, il y a un mépris profond pour sa population, et plus particulièrement la population de la diaspora, et encore plus particulièrement celle qui se trouve en Libye. C'est le premier point et le premier constat. La deuxième chose, vous avez parlé de négligence. Je ne pense pas qu'au Togo, il y a de la négligence. Je pense tout simplement que c'est un mépris profond de la population et que votre prédécesseur a bien noté et bien marqué. On envoie des gens en leur faisant croire qu'il y a de l'argent en Libye. On les cède là-bas. Certains étaient même des contestataires au sein même du RPT. Et on leur dit, on n'a qu'à les laisser les abandonner là-bas. Et bien sûr, une fois que vous n'avez pas de passeport, on vous envoie où vous voulez. Si vous avez des compétences traducteurs ou autres, on vous envoie aller discuter, faire des travaux de mercenaires pour peut-être le régime libyen lui-même dans d'autres pays. Et là, vous êtes payé. Donc, beaucoup croyaient que là-bas, il n'y aurait jamais d'histoire. Sauf que voilà, il y a des gens qui demandent là-bas aussi l'autodétermination, la démocratie et en fait un système légal. Donc, je ne pense pas qu'il y a négligence. Il y a simplement un grand embarras de nos chefs d'État. Hein, beaucoup ont pris l'argent avec le colonel Kadhafi. Beaucoup sont impliqués dans un certain nombre de trafics d'individus et d'influences. Et le plus grave, ce sont ces migrations d'individus qu'on envoie là-bas. Si on doit faire revenir ces 1000 personnes au Togo, à peu près, vous avez demandé le chiffre n'est jamais précis, mais nous sommes autour de 900-950. Hein. C'est que d'autres sont en train de s'inscrire, qu'on n'a même pas pu accéder. Il y a des villes qui sont quasiment pas d'accès. Et puis le Internet vient d'être coupé, donc on n'a plus l'accès aussi régulier, c'est seulement 2 ou 3 fois par jour. Les banques ne sont ouvertes que 1h, 1h30, et si vous êtes libyen, vous avez de l'argent, si vous n'êtes pas libyen, on ne vous donne pas. Et si on vous donne, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec. Voilà les conditions. Et les fruits et légumes qui étaient à un prix normal ont augmenté pratiquement pour les étrangers, surtout pour les Noirs, puisque les Libyens considèrent que tous les Noirs sont en fait des mercenaires. Donc vous pouvez même être attaqué par n'importe qui dans la rue parce qu'on croit que vous êtes mercenaire, surtout que si on vous avait observé avant dans les différentes administrations libyennes travaillant pour le système.
Oui, docteur Yves Ekouyamaïso, c'est vraiment déplorable ces situations. Romain, vous avez une dernière question puisque le temps est contre nous.
Oui, docteur Yves Ekouyamaïso, il y a un an que le président Faure Gnassingbé a été réélu. Quel bilan succinct faites-vous après un an de gestion du pays?
Très simple, il est négatif. D'abord, il faut vous rappeler qu'il n'y a même pas eu de bilan pour les 5 premières années. Improvisation, gouvernance à vue, beaucoup de corruption, un silence quand les réseaux mafieux ou les réseaux ésotériques veulent prendre des décisions et des arbitrages économiques qui fait qu'ils sont incapables de créer de la richesse dans ce pays, encore moins de créer des emplois et donc de créer du pouvoir d'achat pour nos populations. Deuxième élément, aucune amélioration sur la démocratie ni sur la transparence. Je ne vais pas dans les détails des listes électorales, l'élection communale n'a pas eu lieu, législative n'en parlons même pas, on fait même sortir des députés. Et en plus, on n'a même pas compté la diaspora. Troisième chose, beaucoup plus grave, mauvaise utilisation des compétences togolaises. C'est qu'on a des gens qui n'ont aucune compétence, qui ne savent que manger, qui occupent des postes et qui ne veulent que manger. Comment voulez-vous qu'un militaire vienne gérer le ministère du Commerce? C'est son boulot? C'est son activité? C'est sa spécialisation? Quelle formation technique il a pour pouvoir gérer les problèmes du commerce? Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire à l'OMC quand il va se retrouver avec des millions d'États où les meilleurs sont des plus grandes écoles, où on paye 55 à 90 000 dollars par an pour pouvoir faire ces études-là? Vous voyez le problème. Bon, continuons. Les capacités productives du Togo sont occupées pour la plupart pour les pays étrangers. Et donc, on n'arrive même pas à voir la zone franche. C'est que les gens qui sont là-bas, notamment les femmes, beaucoup n'ont pas de contrat normal. Et souvent, c'est sûrement la prostitution qui fonctionne. L'absence de liberté de la presse, faut-il citer Métropolis, X-Solaire, Providence et d'autres encore qu'ils ont bloqués. Vous voyez, je peux faire la liste, elle est très longue. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un système d'hypocrisie et d'arbitraire qui est mis en place. Je ne parle même pas des prisonniers politiques. Certains sans jugement, certains qui n'ont rien fait, certains qui veulent créer de la richesse comme redémarre, on le ferme en prison, il est même malade, on ne peut même pas le laisser aller se soigner à l'extérieur. Mais quel genre de gouvernement c'est? Qu'est-ce qu'il veut exactement? C'est ça le vrai problème qui se pose depuis ce bilan. Donc il y a un problème de vérité des comptes, il y a un problème de vérité des urnes, et il y a un problème tout simple de bougisme sans changement. Voici un système qui bouge tout le temps, qui ne laisse pas la liberté de se faire, qui n'aide pas la démocratie, c'est une gouvernance de la falsification. Et si vous cherchez le mot falsification, c'est quelque chose qui est mythe, quelque chose qui veut faire comme. Et il fait comme, il le fait très mal. Il le fait tellement mal qu'on peut le noter seulement 6 sur 20, parce qu'il y a quand même des individus sérieux qui peuvent faire le boulot, mais à qui on ne laisse pas le temps de le faire.
Merci beaucoup, docteur Yves Ekouyamaïso. Malheureusement, le temps est contre nous. Je rappelle encore une fois que vous étiez en direct depuis Vienne, Autriche, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle que vous êtes le coordinateur provisoire de CVU Togo Diaspora et groupe indépendant, je le précise, hein, et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Crise financière mondiale, réponse alternative de l'Afrique, édition Ménabuc, Paris 2010. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous.
Je vous remercie.
Fenêtre sur l'Afrique, stop et fin. Merci à vous tous qui étiez restés en notre compagnie pendant 60 bonnes minutes qui vont bientôt finir. Je vous donne rendez-vous pas samedi prochain, hein, samedi sur prochain, puisque samedi prochain, il n'y aura pas Fenêtre sur l'Afrique, malheureusement. Nous allons nous retrouver le 26 mars pour d'autres actualités politiques au Togo, en Côte d'Ivoire, en Libye, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et Fenêtre sur l'Afrique, et c'est tous les samedis, et sauf au samedi sur prochain, il n'y aura pas Fenêtre sur l'Afrique, je vous le rappelle encore une fois. Alors, vous pouvez réécouter cette émission sur le www.togocity.com, isilombe.com, www.cvudiaspora.com. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.